Le 21 septembre prochain, donc ce vendredi, s'ouvrira une exposition fascinante dédiée à l'artiste américain Alexander Calder, qui a un lien très particulier avec Montréal. Et son parcours passé est exposé. Les différentes étapes de son parcours sont exposées. Cette exposition permet de découvrir son exploration artistique. Alors, un artiste hautement préoccupé par la libération de l'art, et à mes côtés, je suis absolument ravie de retrouver Madame Anne Grace, co-commissaire de cette exposition, vraiment, écoutez, qui est magnifique. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue.
Merci, c'est un plaisir.
Alors, le titre de cette exposition-là, vraiment déjà, suscite une grande réflexion. Alors, Alexander Calder, un inventeur radical. Alors, en quoi Alexander Calder est-il radical? Ça pique notre curiosité.
C'est un artiste qui a vraiment repensé toutes les notions traditionnelles de la sculpture. Et en fait, ses inventions sont tellement importantes qu'on oublie qu'ils sont associés à lui. Par exemple, si on pense au mobile qui flotte au-dessus des berceaux de bébés, c'est Calder qui a inventé le mobile. Et grâce à Calder, le mot mobile a rentré dans le dictionnaire Webster's en 1954 pour décrire ce genre d'objet. Alors, ce qu'on voit dans cette exposition, c'est les différentes formes qu'il a inventées, le mobile étant le plus connu, mais d'autres objets, sortes de sculptures comme les sculptures en fil de fer, les stabiles, qui sont une forme d'art qui appartient uniquement à cet artiste et qui ont occupé un espace différent de l'art, c'est-à-dire il a ajouté le temps et l'espace à cette idée de la sculpture.
Ça, c'est une grande préoccupation, d'ajouter à ses sculptures, notamment parce qu'il est réputé pour ses sculptures, ses mobiles, d'ajouter du mouvement. Une grande préoccupation. Et de quelle façon il a découvert cet intérêt qu'il pouvait avoir pour le mouvement? Je pense que c'est suite à une visite dans l'atelier de Mondrian.
Oui, alors Mondrian, c'est un artiste qui a fait de l'art abstrait pur, mais ce n'était pas les tableaux de Mondrian qui l'ont influencé, mais plutôt l'atelier, parce que l'artiste avait des rectangles de couleurs sur les murs de son atelier, et Calder avait dit à Mondrian, ce serait bien si tous ces formes bougeaient. Mondrian n'aimait pas l'idée. Alors, Calder retourne à son studio, il fait une série de peintures, on a deux exemples dans l'exposition, mais surtout, il invente le mobile, c'est-à-dire mettre des formes et des couleurs en mouvement.
Oui, oui. Alors, écoutez, c'est donc un artiste, Alexander Calder, qui, étonnamment, a un parcours atypique. On est informé de son histoire et il a fait un détour par la science avant de devenir artiste visuel. La réflexion sur l'art ne l'a jamais quitté.
C'est un artiste qui était né d'une famille d'artistes. Sa mère, son père, son grand-père étaient artistes. Et il a décidé d'être formé comme ingénieur. Alors, cette capacité de...
Il s'est démarqué de sa famille.
Oui, c'est ça. Et en fait, il a visité l'exposition universelle en 1915. Il avait vu toutes sortes d'inventions. C'était un moment où le monde changeait rapidement. C'est l'évolution des automobiles, de la communication. Il voulait faire partie de...
C'est une époque d'industrialisation assez frénétique.
Exactement. Donc, il voulait donner ce rythme accéléré à la sculpture aussi. C'est complètement naturel qu'il a dit que l'art aussi doit faire partie de ce monde moderne. Et il a créé des formes qui bougeaient, en fait, qui reflétaient aussi les découvertes en science à l'époque. La théorie de Einstein a été prouvée en 1919. Il y avait une nouvelle compréhension de l'espace comme une espace qui était courbé, et on voit dans ses œuvres des réflexions de toutes ces nouvelles conceptions du monde. Il y a souvent des formes courbes dans ses œuvres, cette idée d'inclure l'espace, l'air, le mouvement dans ses œuvres, parce qu'il voulait que ça reflète vraiment tout ce qui était contemporain, qu'est-ce qui était moderne, nouveau avec le monde.
Oui, et de plus, je pense, sa passion pour créer des mobiles, éventuellement des stables. Écoutez, il y avait aussi le but de changer le rapport à l'art, changer le rapport du public à l'art. De quelle façon?
Oui, en fait, si on pense, premièrement, au mobile, on est en dessous du mobile, on habite le même espace du mobile, mais aussi si on pense aux œuvres comme Trois Disques ou L'Homme sur l'île Sainte-Hélène, et on pense par exemple au pique-nique électronique ou ces grands festivals, on est en dessous de la sculpture. On peut traverser les grosses... la structure même de l'homme. Alors, ce qui est très différent que la sculpture traditionnelle où on marche tranquillement autour. Donc, c'est comme s'il crée un espace pour le visiteur à l'intérieur de l'œuvre même. Donc, c'est complètement nouveau, quelque chose qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais c'est l'inventeur de cette nouvelle forme. Et je pense que c'est grâce à un esprit très généreux, inclusif, qu'il y a cette nouvelle conception de la sculpture.
Ce type d'exploration, ça peut trouver des explications dans son parcours artistique. Écoutez, alors dans les années 20, il côtoie vraiment des artistes de l'avant-garde.
Oui,
c'est ça. Peut avoir teinté toute sa démarche par la suite.
Oui, il rencontre dans les années 20 à Paris, le centre artistique du monde à cette époque, ou certainement le monde occidental, des artistes comme Mondrian, comme Duchamp, comme Cocteau, qui vient voir son cirque miniature, et aussi ces artistes-là qui vont saisir l'importance de ces nouvelles formes qu'ils développent à partir de 1931, c'est-à-dire ces premiers mobiles mécanisés, parce qu'au début, c'était un moteur qui bougeait ces sculptures. Ensuite, c'était le courant d'air ou l'environnement autour de la sculpture qui bougeait. Et donc, dès le début de sa carrière, il était reconnu pour ses innovations et il n'a jamais cessé à innover à travers sa vie.
Et sa réflexion a été très alimenté par ses collègues artistes tout autour de lui. Et il faut vraiment parler de ses inspirations. Il y en a plusieurs, notamment le cirque. Alors écoutez, le scientifique artiste qu'il est a été vraiment hautement inspiré par le cirque. Il y a une œuvre en particulier qui est passée à l'histoire.
Oui, en fait, il a fait ce qu'on appelle le cirque Calder. Et c'est une centaine d'objets, de petites figurines qui bougeaient, qu'il animait. C'est le début quasiment de l'art de la performance. C'est une œuvre qui est maintenant au Whitney Museum à New York, qui ne voyage plus, mais nous avons une belle...
Mais qui a beaucoup voyagé.
Exactement. Il l'a présenté à New York, à Paris, surtout dans les années 20, les années 30.
Il animait lui-même un cirque miniature, c'est ça?
Exactement. C'était vraiment un cirque miniature avec des animaux, avec des acrobates, en fait, qui était très réaliste et qui citait des personnages du cirque très connus à l'époque. Alors, le public reconnaissait tous ces actes et c'était très contemporain. Nous présentons tout ce spectacle de cirque à travers un film dans l'exposition.
Oui, parce que toute cette tournée s'est terminée par un film qui a été créé sur ce cirque Calder.
Oui, en 1955, Jean Pélevé a fait un film qui documente le cirque et on voit l'artiste à l'intérieur de ce cirque et on a une salle dédiée dans l'exposition à ce film et ça nous permet de vraiment voir tout ce spectacle et qui est très drôle, plein de surprises et plein de moments d'émerveillement qui n'est pas loin en fait de l'expérience d'être en dessous d'un mobile où on voit aussi tous ces performances assez extraordinaires. Mais cette fois-ci en sculpture, en métal, en tige, et c'est un genre d'acrobatie, mais dans l'air.
Mais avant qu'on passe à la dernière salle, parce qu'écoutez, ça, c'est une salle qui nous concerne particulièrement. Les différentes salles ici d'exposition nous permettent de voir tous les médiums utilisés par Alexander Calder. Il a beaucoup exploré le mobile. D'ailleurs, c'est un nom qui a été donné par qui?
C'était Marcel Duchamp.
Duchamp.
Oui, qui a donné le nom mobile en 1931.
C'est très, très, très intéressant. Donc, il a exploré différents médiums. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir toutes ces différentes expériences avec différents médiums. Notamment, on est à côté d'une œuvre de bronze.
Oui, même si au début, il ne travaillait pas beaucoup dans le bronze, parce que son père et grand-père étaient sculpteurs traditionnels et voulaient faire autre chose. On voit même dans ses sculptures en bronze, il y a un équilibre, une structure qui est différente. Et on voit les mêmes formes dans ses œuvres qu'on peut reconnaître aussi dans ses tableaux, qui sont aussi dans l'exposition, et aussi des mobiles, ce genre de formes courbées, des formes qui sont assez organiques, qu'on voit aussi une relation avec les œuvres de Miro, les œuvres de...
Et on est dans une salle où il y a différentes œuvres, différents tableaux nettement inspirés par le peintre Miro.
Oui, il était vraiment en dialogue avec tous ces artistes de l'avant-garde, Hans Arp aussi à Paris. Donc, ces relations, c'était vraiment le produit de discussions. C'était quelqu'un qui était aimé par d'autres artistes. Il y avait des liens assez importants qui ont souvent duré toute leur vie. Et je suis devant une...
Et même, il y a des bijoux. Il y a même un présentoir de bijoux, hein, inspiré, je pense, de l'Antiquité.
Oui. En fait, c'est souvent les bijoux ont été donnés à des amis parce qu'ils donnaient en cadeau. Il avait plusieurs offres de créer des bijoux d'une façon commerciale, mais la plupart du temps, il faisait des cadeaux aux gens. Alors, on a un bijou, un collier qui a fait pour Bella Chagall, la femme de Marc Chagall, au début des années 40.
Oh là là! Donc, on ça voit, fait rêver!
Oui, alors on voit toutes ces relations et pour un public à Montréal qui, je pense, sont venus voir notre exposition Chagall en grand nombre, on pensait que cette idée de pouvoir montrer cette amitié entre ces deux grands artistes du 20e siècle va leur toucher particulièrement.
Alors, écoutez, il y a une variété d'œuvres à voir, hein, des tableaux, des mobiles, des stabiles, des... plusieurs années de sa vie, mais il y a, à un moment donné, il s'achemine vers une autre exploration qui est l'art public. Hein. Là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il devient de plus en plus ambitieux avec des œuvres de plus en plus imposantes.
Oui. En fait, il était l'artiste qui a reçu la première commande du National Endowment for the Arts, c'est-à-dire l'art public aux États-Unis, avec une œuvre qui était à Michigan. Il y a des œuvres qui sont iconiques à Chicago. On a le modèle pour Flamingo qui est sur la rue Madison à Chicago. Mais à Montréal, c'est évidemment l'homme ou trois disques qu'il a fait. À cette époque, c'était sa plus grande sculpture de presque 67 pieds ou 22 mètres. Et c'est ça, il voyageait à travers le monde, vraiment, et il y a des œuvres...
Il a aussi créé une autre œuvre d'importance au Mexique.
Oui, c'est ça. Juste après, les gens au Mexique qui a fait la commande voulaient s'assurer que c'était un tout petit peu plus grand que Montréal, mais à l'époque, c'était l'œuvre le plus grande. Mais aujourd'hui, l'œuvre qu'on a à Montréal est sans doute l'œuvre d'art public le plus important au Canada. Donc, on est vraiment...
De quoi être fier.
Oui, absolument. Et c'est une œuvre qui va, en fait, le lieu de cette œuvre sera transformé bientôt, mais c'est une œuvre qui reste une des icônes de l'exposition 67.
Écoutez, oui, une icône, parce qu'on parle d'Alexander Calder, tout son parcours avec l'avant-garde les artistiques, mais écoutez, ces dernières années, il est devenu un artiste engagé. De là, toute l'importance de l'Expo 67 par Alexander Calder. Ça l'a fait vraiment accepter de faire une œuvre pour, avec conviction pour Expo 67.
Oui. En fait, on a découvert avec les nouvelles recherches que c'était les organisateurs de Expo qui voulaient absolument avoir Calder comme artiste parce que c'est un artiste humaniste et ses valeurs, c'était des valeurs partagé avec les organisations d'Expo 67, avec cette idée de paix internationale. C'était l'époque du guerre de Vietnam.
Même il a manifesté avec son épouse.
Absolument, et même lui et son épouse Louisa ont fait une annonce dans le New York Times en 1966 pour partager leurs souhaits pour une année remplie de paix, qu'il y aurait plus de compréhension globale. Donc, c'est vraiment un artiste, même s'il n'y a jamais une signification cachée de ses œuvres. C'est vraiment quelque chose qu'on découvre pour la pure beauté des objets. Mais quand même, c'est une artiste engagée qui n'hésitait pas de partager son point de ses convictions politiques.
Alors, on a une dernière salle ici dans ce parcours absolument fascinant, une dernière salle consacrée à ces œuvres d'art public, là, géantes, en fait, là, de très grand format. Peut-être te présenter cette dernière salle.
Oui. Oui, c'est la première fois que...
Il y a des maquettes inédites. Hein? Oui.
Exactement. Donc, on a des maquettes importantes. On a la petite sœur de trois disques qui s'appelle Deux disques, qui est une maquette pour une œuvre qui est exposée à Washington la plupart du temps devant le Hirshhorn Museum. Mais surtout, nous avons la maquette originale pour l'homme, ou trois disques. C'est la première fois que ça vient à Montréal. Et nous l'avons présentée devant une énorme photo de l'homme sur le Sainte-Hélène qui était pris en 1967. Alors, on peut voir la genèse vraiment de cette œuvre importante. Et à l'extérieur du musée, nous avons la maquette intermédiaire. Donc, ce qui était construit pour tester le vent, pour s'assurer que c'était assez fort. Et c'est la première fois que nous avons réuni à Montréal les trois versions de l'homme, ou trois disques, c'est-à-dire un à la Sainte-Hélène, un sur la rue Sherbrooke et aussi un dans les salles d'exposition.
Alors, quel événement, merci. Alors, parlons peut-être en terminant de la scénographie époustouflante. Alors, écoutez, c'est vraiment, je pense, une scénographie qui reflète bien le mouvement de l'avant-garde, l'inspiration d'Alexander Calder. Quelle est la personne à la scénographie ou l'entreprise à la scénographie?
Cette fois-ci, on a fait la scénographie nous-mêmes, c'est-à-dire...
Notre station.
Ben, je dis nous-mêmes, mais c'est vraiment ma collègue Sandra Gagné aux expositions au Musée des beaux-arts de Montréal, et aussi Nathalie Bondil, la directrice, qui est très impliquée dans tout le design de l'exposition. Et on voulait avoir quelque chose...
Est-ce qu'on s'est inspiré d'anciennes expositions?
Non, surtout on voulait avoir l'espace à la fois contemporain, surtout pour montrer le mobile de Calder, mais aussi...
La salle des mobiles, écoutez, là, c'est un véritable paradis.
Oui. Mais je pense que c'est impossible de ne pas se sentir bien dans cette salle, de vraiment contempler la simplicité, le mouvement, la beauté. En fait, c'est une artiste qui a uni... c'est la gravité et la grâce. Et la grâce au même temps. Et,
ça décrit bien l'artiste, effectivement.
Et c'est ça. C'est une scénographie qu'on voulait mettre en valeur l'artiste, mais aussi quand même faire un parcours de sa vie et comprendre mieux l'artiste à travers une scénographie qui nous amenait de 1920 à 1967.
Une exposition captivante. Merci beaucoup, Anne-Grace. Vraiment, vous êtes donc co-commissaire de cette exposition spéciale. Écoutez, c'est une première en Amérique du Nord. On aurait souhaité. On a attendu, mais ça valait l'attente. Et vous êtes aussi conservatrice au Musée des beaux-arts de Montréal.
Oui, je suis conservatrice aux expositions et c'était un beau travail d'équipe.
Absolument, l'équipe, il y a tout un travail de collaboration. Et l'exposition va s'ouvrir à quel moment?
Le 21 septembre et ça va jusqu'au 24 février. Mais j'encourage les gens de venir tôt parce que c'est très bien d'avoir l'espace autour et c'est un bon moment de découvrir Calder maintenant. Alors, je vous remercie.
Encore merci.